mois dernier, j'ai partagé avec mes petits-enfants, avec Donna dans notre culte familial, un tout petit livre par John Piper qu'il a écrit la nuit avant qu'il a subi une opération pour un cancer lui-même, il y a une douzaine d'années, je crois. Et cela a été écrit « Don't waste your cancer », c'est-à-dire « ne gaspille pas votre cancer ». J'aurais dû dire « ne gaspille » plutôt que « ne gaspiller ». Et ça, c'était à côté d'un autre livre qu'il avait écrit pour des jeunes, ainsi que pour des vieux, « Don't waste your life », « ne gaspillez pas votre vie ». Il y a notre vie pour les retraités. Ne gaspillez pas votre retraite. Parce qu'il y a des gens qui vivent pour se reposer. Et vous pouvez avoir des années les plus efficaces, les plus utiles après la retraite qu'avant, si vous avez la bonne mentalité. Si vous avez une mentalité humaniste, socialiste, tout égocentrique, vous vivez pour la retraite. Vous vivez pour la retraite comme pour soi-même. Monèse, ma vie. Donc, quand le docteur dit vous avez un cancer, comment est-ce que vous sortez? Qu'est-ce que vous faites? Et comment est-ce que vous allez réfléchir? Et j'ai changé un peu l'ordre de ce qu'il avait donné, mais je voulais juste vous lire un peu de son introduction. Non, je l'ai. Et je vais faire une petite traduction pour que vous mettiez dedans. J'ai vu que mes... Alors, maintenant que je ne fasse pas attention de... Ok, je vais juste reculer page par page. Originellement, j'ai écrit cela la nuit avant mon opération pour cancer. Je croyais à ce moment, et je crois maintenant, dans la puissance de Dieu pour me guérir, par miracle ou par médecine. Je crois que c'est bien et correct de prier pour les deux. Le cancer n'est pas gaspillé lorsqu'il est guéri par Dieu. Il reçoit la gloire et c'est pour cela que le cancer existe. Donc, ne pas prier pour la guérison peut être gaspiller notre cancer. Refuser de prier pour la guérison, parce que il y a des charismatiques qui font ça. Pas penser comme ça. Dieu veut qu'on prie pour la guérison. Mais la guérison n'est pas forcément le plan de Dieu pour chacun dans notre vie. Il y a beaucoup d'autres moyens de gaspiller notre cancer. Donc, j'ai prié pour moi-même et je continue jusqu'à maintenant. Pour que ce cancer ne soit pas gaspillé et même ce douleur ne soit pas gaspillé. En ce moment, 5 ans plus tard, c'est évident, c'est qu'ils ont réussi. Mais j'ai bien pris dans ma vie qu'un jour, on peut penser qu'on est bien et le lendemain, on peut trouver qu'on n'est pas du tout bien. Donc, quand des personnes me demandent « Comment va votre santé ?» je dis « Je me sens bien ». Et les docteurs sont contents, qui, étant traduit, veut dire « Je n'ai aucune idée comment je suis, seulement Dieu le sait. » Et Dieu le sait, et il s'en occupe, et ça suffit. Et le passage qui m'est venu à l'esprit, en attendant le biopsie, après mon opération, c'était dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 9 et 10. Luc, tu peux trouver ça, s'il te plaît? Et lire 1 Thessaloniciens chapitre 5, 9 et 10. Très fort.
Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la force, l'intercession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que nous veillions ensemble avec lui.
Ok. Afin que soit que et soit que. Quels sont les deux soit que?
La veillons.
À soin que nous sommes veillés, veillons, et puis
donc,
où je vis, où je meurs par ce cancer, pour lui, ça suffit. Et il a dit, ça suffit. Je ne suis pas destiné à la colère, début du verset, mais à vivre avec Christ. Et jusqu'à ce moment, que Dieu puisse nous aider à ne pas gaspiller notre santé, la bonne santé, ou notre cancer, ou nos épreuves. Donc je croyais qu'on pourrait dire, ne pas gaspiller votre épreuve, parce que je ne connais pas l'épreuve à travers laquelle le Seigneur vous a permis de partir, mais Dieu a permis que vous ayez des épreuves pour certaines raisons. Il y a 11 points, et je vais essayer de au moins survoler assez rapidement les 11 points, et plus tard peut-être entrer profondément, parce que chaque point est un point théologique, doctrinal, qu'il faut saisir et utiliser au maximum quand le Seigneur permet de traverser certaines épreuves ou cancers. Donc, on va dire, commencer par dire, notre cancer est gaspillé. Si, numéro premier, nous ne croyons pas qu'il a été conçu pour nous par Dieu. Alors, et pour voir ça, je veux que nous voyions les passages ici. Ça, c'est une chose que j'ai vue, que je n'ai pas constatée avant de voir avant de lire ce petit livre de John Piper. Mais regardez Job chapitre 2. Nous gaspillons notre cancer si nous ne croyons pas que le cancer a été conçu pour nous par Dieu. Ok, chapitre 2 de Job et verset 7, verset 7, mais d'abord 5 à 7. David, peux-tu lire ça de là-bas? C'est Satan qui parle.
Le chapitre s'intitule Job frappé d'un ulcère malin.
Chapitre 2, verset 5. À 7.
Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face.
Okay, c'est Satan qui dit à Dieu, eh ben, il a quand même ses limites. Tu vas trop loin et tu risques, Dieu, à être maudit par Job. Et alors?
Verset 6. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre. Seulement, épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel.
Ok. Qui c'est qui va faire du mal à Job? Dieu ou Satan? Oui, parce que le prochain verset... Enfin, continue avec le verset.
Puis il frappa Job d'un ulcère malin.
Qui c'est il?
Satan.
Satan. Ok, Satan frappa Job d'un ulcère malin. Fini le verset.
Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête.
Ok. Entre ce verset et le verset 11 que vous voyez ici, nous avons l'intervention de la femme de Job qui n'était pas trop jolie, n'est-ce pas? La femme de Job va dire, Job, verset 9, tu demeures ferme dans ton intégrité, c'est pas vrai. Maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Et puis maintenant, il va répondre son opinion personnelle par rapport au Satan qui sait le frapper. Enfin, non, il faut que je recule là. Je ne crois pas qu'il sait Satan le frappe. Mais il a une certaine perspective que nous devrions avoir. Anne, peux-tu lire ce verset, la réponse de Job à sa femme?
Mais Job lui répondit, tient le langage d'une folle. Nous acceptons le bien de la part de Dieu et nous n'accepterions pas aussi le mal.
Ok, donc Job voit un équilibre là. Si Dieu me donne le bien, il peut aussi me donner le mal, et je dois être en égalité dans mon esprit par rapport à ce qui m'arrive. De ne pas dire, je t'aime quand tu me fais du bien, je ne t'aime pas quand tu ne me fais pas du bien. C'est ça ce qu'on voit dans le monde. La plupart des gens qui prétendent aimer Dieu, oui, quand le soleil brille, mais pas quand il pleut. Et ça, c'est systématique presque.
Il y a un truc que je ne comprends pas. Comment pas? J'ai toujours du mal à comprendre que le mal puisse venir de Dieu puisqu'il n'y a pas de mal en lui.
Puisque quoi?
Puisqu'il n'y a pas de mal en lui.
Ok, pour l'instant, je veux juste viser l'opinion de Job, et ce cours sera très 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 bien pour répondre à cette question. Donc, patiente-toi. Dieu veut que tu te patientes. Et c'est mal de ne te pas dire tout de suite la réponse. Hein? Mais c'est bon de dire plus tard. Ok? Et puis, avec cela, qui peut lire chapitre 42, verset 11? Je crois que ça devrait être un point, pas un virgule, là. Chapitre 42, verset 11. Alors, on est à la fin maintenant. Il me semble, Prudence, tu avais lu ce verset dans un témoignage il y a quelques temps. Et on est à la fin. Les épreuves ont été faites. Enfin, Job a été restauré. Les trois amis ont été reprochés par Dieu pour dire des choses contre Job qui n'avait pas l'autorité de faire. Et puis quand on arrive à chapitre 2, c'est Job qui parle dans un esprit de confession, de repentance. Et après ça, Wilfried, versets 10 et 11.
L'Éternel avait appelé Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous lui rendre visite et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui.
Ah ah, de tous les malheurs que
l'Éternel
avait fait venir sur lui. Ça, c'est plus Job qui parle. Ça, c'est Dieu qui parle. Ok? Et chacun lui donnait, voilà, le reste, c'est pas nécessaire. L'Éternel avait fait, Job avait déjà cette opinion en chapitre 2. L'auteur du Job est en train de résumer le fait. L'Éternel avait fait ça. Satan ne figure plus. C'est intéressant. Au début, il y avait trois personnes. Il y avait Dieu, Satan et Job. À la fin, il n'y a pas de Satan. Satan ne figure plus, il n'y a que Dieu et Job qui figurent dans cette équation. Ok? Alors, on peut aller plus loin en ça, mais je veux couvrir les autres points. Nous gaspillons notre cancer si nous croyons que c'est une malédiction et non un don. Et on va voir tous les versets ici pour arriver à une conclusion. Matthieu chapitre 13, verset 22, ça dit quoi? Quelqu'un qui veut le lire ça?
Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du ciel et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rend infructueuse.
Ok, ici, peut-être c'était le verset qui précédait, ça parle encore du Satan. Le premier terre, Satan arrive, il arrache la terre, souligne le fait que Satan veut le mal pour toi, même s'il te donne le bien pour l'avoir. Ok? Quelle est la différence entre une épreuve et une tentation? Une tentation, c'est satanique dans le but de vous éloigner de Dieu, tandis qu'une épreuve, c'est quoi? Ça vient de Dieu pour vous amener vers Dieu. Et les deux choses peuvent être exactement la même chose. Une tentation peut être une épreuve. Donc les deux personnes, c'était le cas pour lui, la tentation pour Job c'était de maudire Dieu. Donc l'épreuve de Dieu c'était pour qu'il puisse passer à travers et reconnaître les richesses de Dieu et que cela n'a pas été prévu du tout pour son mal mais pour son bien. Ok, donc nous croyons que c'est une malédiction. Malédiction, je crois que ces versets vont souligner, est impossible sur le croyant. Un croyant ne peut pas être maudit. Prochain verset, Luc 13, 16. Je me rappelle plus ce que c'est. Luc 13, 16.
Cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan connaît depuis 18 ans, ne fallait-il pas délivrer cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous les adversaires étaient confus et la foule se réjouissait.
Bon, ça suffit. Satan, Jésus dit, a quel est le mot? Bloqué, empiégé, attaché, emprisonné. Cette femme, pendant 18 ans, Satan l'a liée. Satan veut lier des personnes. Prochain verset, Romains 8, 1 avec Galates 3, 13. Quelqu'un d'autre? Romains 8, 1.
Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
Ok, et quelqu'un d'autre? Galates 3, 13. Aucune, on peut dire ça, aucune malédiction. Je n'ai pas dit aucune mal qui arrive, mais ça vient, malédiction vient du verbe maudire. Dieu ne maudit pas certaines personnes. Surtout pas ceux qui sont nommés en Romains 8, 1. Aucune malédiction, aucun maudit pour ceux qui sont en Christ. Galates 3, 13.
Christ ne t'a racheté de la malédiction de la mort, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est conduit au bois.
Maudit une fois, malédiction deux fois. Christ a reçu une malédiction que le croyant ne recevrait jamais. Donc, ce que... verset, nombre, le livre de Nombre, un verset très important. Nombre 23, 23. Nombre, Genèse, Exode, Lévitique. Nombre, je pratiquais ce qu'on dit dans la voiture l'autre jour. J'ai oublié. Ok, Samuel. Oh, je crois que tu l'avais trouvé.
L'enchantement ne peut rien contre Jacob.
Ok, vas-y.
L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre l'Israël d'Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël.
Quelle est l'œuvre de Dieu? Qui c'est qui parle? J'avais l'impression aussi. Ok, maintenant je veux que ça soit Luc, ça c'est bien fait. Lis ça comme c'est la personne qui parle.
D'accord. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël.
Ça, c'était plus compréhensible. Qui c'est qui parle?
Balaam.
Et c'est Balaam qui dit quoi? Qui admet quoi?
Qui admet qu'il ne peut pas maudire le peuple de Dieu.
Que le peuple de Dieu ne peut pas être maudit. C'est pas possible. Il a fait de son mieux de faire maudire le peuple de Dieu, mais il n'a pas réussi. Il a conclu. Ils sont immaudissables. On peut dire ça? Ils ne peuvent pas être maudits. Et franchement, ça m'a beaucoup fait du bien de reconnaître cela avec Romains 8, 1, Galates 3, 13, que le chrétien est dans les pires épreuves. Semble-t-il malédiction, mais ils ne sont pas malédictions, ils sont des épreuves, ils ne sont pas des malédictions. Satan cherche à maudire tout le monde pour l'éternité. Ok, on peut aller plus loin en ça, mais on va prendre la troisième. La troisième a été la première, mais tellement ça semble être difficile à saisir, j'ai voulu attendre pour maintenant. Nous gaspillons notre cancer si nous n'entendons pas dans notre propre gémissement les douleurs de l'enfantement d'un monde déçu. Romains 8, 20. Allez à Romains 8, 20. Tous. Pas juste une personne. Romains 8, 20. Je le lirai. La création a été soumise à la vanité. Ça veut dire quoi? La création, toute la création. Ok, je recule, 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Il y a une comparaison à ma souffrance et à ma gloire. Qu'est-ce que tu préfères? Les souffrances de maintenant avec la gloire à venir ou la plaisance sans souffrir maintenant sans aucune gloire à venir? Qu'est-ce que tu préfères entre ces deux choix? La souffrance avec la gloire à venir, l'absence de souffrance avec aucune gloire à venir. Qu'est-ce que vous préférez? Ça c'est tout à fait normal et humain. Je rejette ça pour ça et ça pour ça. Malheureusement, ça ne marche pas. Et franchement, on peut mieux comprendre pourquoi Dieu a choisi l'atmosphère nécessaire pour une conception. Une conception qui se fait à l'intérieur du corps d'une femme. Parce que toute l'ambiance, toute l'atmosphère, toutes les choses, toute la température, tout est correct pour qu'il y ait une conception d'un enfant. Et Dieu a conçu une ambiance nécessaire de prendre un homme déçu et dans ses gémissements, que nous lisions encore, nous estimons que les souffrances du temps présent ne seraient pas être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création, il n'y a pas que nous, mais le reste. La création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils, pas le fils, mais des fils, minuscule F, des enfants de Dieu, parce que 20, verset 20, parce que la création a été soumise à la vanité, non de son gré, il n'a pas voulu ça, elle n'a pas voulu ça, mais à cause de celui qui l'a soumis. Qui est l'auteur de la douleur? Dieu. Et ce verset nous le montre. La création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec espérance qu'elle aussi se fera affranchie. Attention, n'oubliez pas que l'espérance de ce monde n'est pas l'espérance moderne. Mon espérance est que je réussis, mais je risque de ne pas réussir. Mais dans la Bible, une espérance, c'est fixe, c'est ferme, c'est futur, c'est sûr, c'est concret, c'est placé dans le banque éternel, mais il est futur. Ah, il faut toujours apprendre à penser ça quand vous lisez le mot espérance. Il y a une espérance, quelque chose de fixe, touchable par ma foi. La foi touche l'espérance, parce que l'espérance est invisible, et l'espérance est future. Et l'espérance est une espérance purement parce que Dieu l'a dit. Mais pas parce que je vois des signes. Il n'y a pas de signes, normalement. Je suis malade, j'ai du cancer, je vais mourir. Mais j'ai quelque chose en quoi j'espère, et c'est fixe, c'est sûr. Et elle, mais ça parle de la création, ça parle de choses hors de nous-mêmes. Cette création qui a subi une terrible vanité, le mot vanité c'est dire le vide, ce mot pour vide, c'est une vide à qui Dieu l'a fait soumettre à cause de nous. Mais Dieu va quand même renverser ça. Et ça va faire part de la liberté, de la gloire des enfants de Dieu. Ça va faire part de la liberté là. En attendant, nous gaspiller notre cancer qui fait mal et qui pousse vers la mort, dans notre gémissement, je gémis. Je gémis psychiquement, je gémis physiquement. Ben, certains qui ne gémissent pas physiquement, et ça ne leur fait pas mal, mais ils sont entièrement dans un état chaotique à l'intérieur parce qu'ils savent que c'est une chose fatale. Mais Dieu dit non, attention, pourquoi Dieu permet le cancer entre autres? Parce que tu deviens maintenant un témoignage, et ça c'est vraiment un autre point, des douleurs de l'enfantement d'un monde déçu. Même si tu es la personne la plus pieuse du monde, si tu vis assez longtemps, tu vas se dégrader physiquement. Et malgré ta piété, malgré ta sainteté, tu vas terminer par comme ça. Puis tu vas être caché par vos enfants, du public, les personnes très réputées. Personne ne les voit les derniers mois, même les dernières années, parce qu'ils sont dans un état. Ils ne veulent pas être rappelés, souvenus comme ça. Timothée avait fait un DVD. Vidéo avec la mort de mon beau-père, les dernières. C'est dur à regarder. Je le regarde de temps en temps, mais ce n'est pas comme ça que je veux me rappeler de lui. Parce que la meilleure personne, la personne la plus forte du monde, la personne la plus vénérée du monde, comme quelqu'un de Superman et super, presque Dieu, il va terminer comme ça. À moins qu'il meure dans un accident, une crise cardiaque, mais la plupart des gens meurent comme ça. Et ils sont entièrement à la disposition de la vanité imposée par celui qui l'a soumis à ça. Alors, pour le moment, si nous n'entendons, si nous avons gaspillé notre épreuve, si nous n'entendons pas que notre gémissement, et nous gémissons, plus psychiquement que physiquement, normalement. Que nos gémissements sont les douleurs de l'enfantement. Qu'est-ce que c'est les douleurs de l'enfantement? En anglais, on dit labor pains. Une mère qui donne naissance à un enfant, elle a des douleurs assez fortes. Je ne me suis senti jamais si inutile que quand j'étais à côté de ma femme pendant ces moments pour nos 5 enfants, j'étais là sur 4 sur 5 à côté d'elle. Je voulais le prendre dans mes bras, je voulais lui donner des bonbons, je voulais faire n'importe quoi, mais rien ne marchait. Je voulais prendre à sa place, mais c'était pas possible. Je n'ai jamais senti si stupide, si inutile, si incapable de faire quoi que ce soit que à la naissance de mes enfants, à côté de ma femme, parce qu'elle souffrait, mais elle supportait parce qu'elle savait qu'il y aurait quelqu'un. Et quelques secondes après que l'enfant est sorti, elle est souriante, et l'enfant déjà entendu pleurer, puis le médecin le met entre ses bras, puis Alors, Dieu veut que nous pensions à notre souffrance comme ça. Ils sont les douleurs de l'enfantement. On est en train, on n'est pas là. On a eu des flashs de l'avenir. Mais pas parfait et pas longtemps. Et c'est juste de temps en temps parce que, juste suffisamment pour savoir que notre espérance est fixe, elle est là. Et le moment de mon cancer sera parti. Alors, si je pourrais avoir un optique comme ça sur mon épreuve, toutes les épreuves, je risque de ne pas mourir d'un cancer, mais je risque aussi de mourir d'un cancer. Côté de mon père, c'est toujours cardiaque. probablement je vais tomber mort d'une crise cardiaque, mais je ne sais pas. Mais de toute façon, que ce soit cancer, que ce soit cardiaque, que ce soit quoi que ce soit, que ce soit un enfant autiste dans la famille, comme chez Lala et Andrew, ça c'est une épreuve qui va changer la direction et la mentalité, enfin, l'atmosphère dans la famille, ça va tout changer. Et ça c'est inclus dedans. Bon, on pourrait... Ça, c'est un point on devrait passer une heure dessus. Quatrièmement, nous gaspillons notre cancer si nous cherchons le confort de nos chances plutôt que sur Dieu. En anglais, c'était le mot our odds, O-D-D, O-D-D-S. C'est-à-dire, on commence à lire des revues. Le cancer que j'ai, il y a 3 chances sur 10, ou il y a 700 chances sur 10 que je vais vivre. 3 personnes sur 10 meurent de mon cancer, ou 4 sur 10, ou 5 sur 10, ou même 1 sur 10. Mais même s'il y a 1 sur 10, je lis tout ce que je vois, je fais des recherches sur Google, et je fais tout, je lis, ça devient une obsession. Et je connais des personnes où cherchent à comprendre, ça va avec la prochaine, en fin de compte, je crois, non, c'est pas ça. L'après, ça va être le sixième, je crois. Mais on joue nos chances. Comme à la fin d'un foot où il est 0-0 après deux prolongations. Mon cancer est maintenant ça, puis ça, puis ça, puis ça. Ah, gagné. Ah, perdu. Et qu'est-ce que c'est gagner? Donc, psaume 28, ça dit quoi? Quelqu'un qui l'a trouvé? Quelqu'un d'autre à part Luc?
Les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Nous célébrons l'Éternel, notre Dieu.
Certaines dépendent beaucoup parce qu'ils sont allés à Paris avec son cancer, parce qu'il y a ce spécialiste qui est reconnu dans le monde d'être le meilleur du monde, et je ne suis pas allé à Paris au meilleur docteur. Ça c'est pas une mauvaise chose à faire si tu as l'argent pour faire ça. Mais le fait c'est, où est votre confiance? Dans des chevaux, dans des choses qui... où met les nations, où est-ce que vous mettez en Dieu? Et 2 Corinthiens 1, 9. Sona, tu l'as trouvé? Ouh, Sona, tu devrais mémoriser ce verset, tout le monde. Nous regardions comme certain notre arrêt de mort. Qu'est-ce que c'est un arrêt de mort? Pour Paul, c'était un sentiment constant de catastrophe. Il était toujours dans des catastrophes. Et si ça allait un tout petit peu plus loin, il serait mort. Mais il n'est pas mort. Pour l'instant, il n'est pas mort. Il va être mort, et puis il va être... décapité éventuellement suivant l'histoire, mais il dit ici cet arrêt de mort, ce cancer, cette épreuve est là afin que je ne place pas ma confiance en moi-même. Je parlais juste avec quelqu'un l'autre jour qui disait I'm a self-made man, je me suis fait moi-même, j'ai pas besoin de Dieu. Non, mais attends, ça, tu vas avoir besoin de Dieu. Tu as besoin, mais tu ne le ressentais pas, mais tu vas le ressentir. Non, pour moi, je n'ai pas peur de la mort. Si je vis longtemps, si je vis courtement, ce n'est pas grave, je suis un self-made man. Alors, le cancer n'est pas pour ça. Le cancer, pour vous dire le contraire, tout se dépend sur Dieu. Cinquièmement, si nous refusons de penser à la mort. Nous gaspillons notre cancer si nous refusons de penser à la mort. Et dans un partage il y a quelques semaines, on avait discuté Ecclésiaste 7, 2. Non, c'était une vendredi soir. mieux de rester chez les tristes que chez les heureux, ou mieux d'aller dans une ambiance funèbre que dans une discothèque ou que dans un lieu festif. Et on avait discuté parce qu'on est plus pensif, on est plus réfléchi, on est plus apte à penser aux choses réellement importantes face à la mort, que dans la gaieté où il y a beaucoup de bruit, beaucoup de musique, beaucoup de joie, pas que ceci c'est mauvais, mais ce n'est pas là normalement où on est convaincu de péché. Sixièmement, nous gaspillons notre cancer si nous pensons que vaincre le cancer signifie rester en vie plutôt que de chérir le Christ. Philippiens 1, 21, c'est pour moi, la vie c'est Christ. Et ça dépisse le désir de Paul d'aller être avec le Seigneur, mais aussi de ne pas partir parce qu'il serait sans guide. Et il était déchiré entre deux désirs, le désir d'être avec Christ et le désir de pouvoir aider ses frères. Il disait, quoi faire? J'ai l'impression que Dieu va me laisser vivre encore un tout petit peu ici. Mais franchement, ce cancer me donne envie d'être plus vite avec Christ. Donc, si on dit, yes, on a gagné, le docteur a dit, il a tout pris. Bravo, c'est pas mauvais de dire bravo. C'est pas mauvais même de dire qu'on a gagné. Mais c'est mauvais de dire on a gagné au prix de vouloir mieux connaître et être avec Christ. Le cancer existe pour accélérer notre désir pour Christ. 7. Nous gaspillons notre cancer si nous passons trop de temps en lecture sur ce sujet et pas assez de temps en lecture sur le sujet de Christ. Alors, Osée chapitre 6, verset 3. 6, 3, Osée, la première personne, allez. Osée 6, 3. Il va gagner. 6-3.
Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Ta venue est aussi certaine que celle de l'aurore.
Encore une fois, plus fort et plus lent.
Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre.
Ok, quelle est la préoccupation qui est soulignée ici? Cherchons à connaître Dieu. Le cancer existe pas pour gagner le cancer, mais pour mieux gagner Christ, pour gagner Christ, pour mieux connaître Christ. Il y a d'autres passages à voir. 8e, nous gaspillons notre cancer si nous la laissons nous pousser vers la solitude au lieu. Et ça, c'est ma traduction, donc je risque de voir. Au mieux d'approfondir des relations spirituelles avec des autres. Des relations, j'avais changé plusieurs fois avec, enlève ça. Si ça pousse vers la solitude et le refus de parler, ça peut aller avec la prochaine, parce que certaines sont tellement horrifiées par leur état, ils n'en veulent pas parler, surtout des non-chrétiens, mais même parfois, malheureusement, des chrétiens. Je peux vous citer certains exemples, mais je ne vais pas, vous ne le connaissez pas non plus quand même. Mais une personne qui m'a beaucoup attristé parce qu'elle a refusé, c'était quelqu'un de très proche, refusé de parler avec ce cancer parce qu'elle avait un docteur qu'elle avait envoyé à une colonie qui disait, ne pensez jamais à la mort, pensez à la qualité de vivre. Et donc, même si vous mourrez enfin, au moins vous avez vu, vous êtes mort heureux. Parce que dans leur tête, vivre c'est tout, terrestre réellement, et mourir c'est fini. Donc si vous pouvez ajouter 10 jours de gaieté, allez-y. Eat, drink and be merry, tomorrow you die. C'est l'attitude du monde. Ce n'est pas l'attitude de Dieu. Et ça ne devrait pas être l'attitude avec la personne avec du cancer, ou de une épreuve, ou de quoi que ce soit. Ça devrait au contraire de ne pousser vers la solitude, pousser à enrichir et approfondir des relations avec d'autres chrétiens. Et surtout avec Dieu. Neuvième, ne gaspillons notre cancer si nous pleurons comme ceux qui n'ont aucun espoir. 1 Thessaloniciens 4:13, qui que ce soit.
Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance.
Ok, afin que vous ne vous affligiez pas comme des autres qui n'ont pas d'espérance. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas triste. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de laisser tomber les larmes. Ça ne veut pas dire que vous devez faire la fête. Ce que mon père a voulu. Mon père, il avait horreur qu'on se met à son tombeau désespéré. Il voulait qu'on fasse la fête. Il a par la maman acheté des jouets pour les petits, pour quand ils viennent à la maison, parce qu'il avait 57 petits-enfants, vous savez. Et pour qu'ils soient tous là, pour qu'ils soient gays, pour que tout le monde ne soit pas... Bon, ça c'était bien. Mais, d'accord, on fait la fête, mais on pleure aussi. Mais pas comme ceux qui n'ont pas d'espoir. Ceux qui n'ont pas d'espoir, une certaine désespoir dans leur foi, et dans leur cri, et dans leur gémissement qui est horrible pour ceux qui connaissent le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi 2 Corinthiens 5:8? J'ai oublié. Qu'est-ce qu'il a trouvé?
Luc. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons nous quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur.
Ok. Le mort n'est pas bon. La mort n'est pas bon. La mort est un ennemi. La mort est quelque chose qui n'avait pas été conçu pour un homme parfait. La mort est la cause, une cause de péché. On va tous passer. Mais le chrétien est animé par un esprit qui attend pas la mort, mais attend un nouveau corps, être avec le Seigneur. Dixième, nous gaspillons notre cancer si nous traitons le péché avec la même légèreté que nous l'avons fait avant. Alors ça, c'est très perceptif. Vous devez vraiment souligner ce point. Vous dites, pour moi, le péché, je vois le péché comme mal. Oui, mais votre définition de péché risque de ne pas être la bonne. Enfin, pas assez profonde qu'elle doit être. Le péché, ce qui est moins de parfait, un scientifique, on avait un scientifique qui disait qu'ils avaient des petites cuves dans lesquelles ils faisaient leurs expériences, et chaque cuve coûtait une 30 €. Et s'il y avait le moins de impureté qui entrait dedans, qui était même plus pure que pour être accepté dans un hôpital, au maximum, mais pour cette expérience de mercure, il faut que ça soit encore plus pur. Donc le processus pour la purification de l'intérieur de ce petite bouteille coûtait très cher, et donc il fallait une 30 €. Pas plus une seule expérience, et une fois que quelque chose va mal, on jette. Donc ça coûte très très cher. Pour lui, sous le microscope, dans son laboratoire, le moindre de morceaux de impureté qui entre, oh, horrible, et son responsable va taper dessus, va être très 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 enflammé de colère, etc., etc. Donc pour lui, c'est horrible si ça arrive. Imaginez combien de plus, pour moi, ne pas être pas. On dit très légèrement, personne n'est parfait. Hein? Je dis ça facilement. Sans aucune culpabilité. Pourquoi je n'ai pas culpabilité? Parce que je vois le péché mal. Ma conception de péché est très 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 tordue que j'excuse la plupart des choses. J'ai un certain... Oui, je sais que Dieu est ici, mais mon niveau est ici. Je suis très fâché contre des personnes qui descendent en dessous de ce que j'avais établi comme le minimum ou maximum niveau, n'est-ce pas? Et vous aussi. Pour moi, je m'accepte ici. Pour toi, je t'accepte ici. Il faut que tu arrives ici avant que je t'accepte. Moi-même, je m'excuse. Toi, je t'accuse. Et entre ici et ici, les autres personnes de l'extérieur qui regardent, mais comment ça se fait qu'il est si... Il est si incapable de voir, il accuse la personne sur la même chose sur quoi lui-même il est coupable et il ne le voit pas. On voit ça chez les autres, n'est-ce pas? Mais les autres voient ça autant sur nous que nous voyons sur eux. Parce que quand tu as ça tout près, c'est très grand. La moitié du monde a été couvert par un seul droit. Mais ici, je vois un peu plus. C'est pour cela que le Seigneur dit, enlève le poutre dans ton œil avant d'essayer d'enlever la petite chose dans son œil. Donc notre perspective, voyant de moi-même, est tordue au mieux. Et le cancer est conçu pour que nous ayons une plus grave conception de péché qu'avant. Luc 9, 25, c'est quoi? Je ne me rappelle plus.
Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même?
Ok, je parlais de cela ce matin. Le perspectif de beaucoup de gens par rapport à ce qui est important, ce qui n'est pas important, est tellement tordu. Et à chaque fois que je vois des personnes, que ce soit en vidéo, que je vois des personnes qui donnent des speeches, des gens qui ont beaucoup réussi dans la vie financièrement, Bill Gates et d'autres personnes plus âgées que lui, ils donnent des speeches et je regarde, il a 20 ans plus que moi. Il parle de l'argent comme s'il va gagner de l'argent pendant encore 3 siècles. Et d'ici 10 ans, au maximum, il ne serait plus là. Et il parle comme... Et apparemment, je ne sais pas s'il n'était pas malade, mais de toute façon, il n'était jamais tombé sur la conviction de la combien est courte la vie et qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la vie qui n'a pas été vécu pour Christ. Le cancer est conçu pour faire des grands travaux chez les gens. Un dernier, 11. Nous perdons notre... cancer, si nous n'arrivons pas à l'utiliser comme un moyen de témoigner de la vérité et de la gloire de Christ. Nous gaspillons notre cancer. Si nous n'arrivons pas à l'utiliser comme un moyen de témoigner de la vérité et de la gloire de Christ, nous gardons ça pour nous-mêmes, nous avons honte de notre cancer, parce qu'on s'est déjà présenté comme quelqu'un de maximum de santé, etc., etc. Non, Dieu nous permet d'avoir le cancer ou quoi que ce soit pour sa gloire et pour témoigner aux autres personnes de la vérité de Christ et de la gloire de Christ. Et souvent, dans les moments d'affliction, nous devenions une attraction pour d'autres personnes qui subissent des choses mais n'osent pas aller vers leurs camarades qui ne font pas que ha 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 ha. Ils ne savent pas que faire ça. Il n'y a rien de mauvais de ha 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 ha. D'accord? Mais quand ils ne connaissent que ça chez vous, ils ne vont pas venir chez vous pour être clarifiés dans leur épreuve et pour entendre votre témoignage et de la vérité de Christ. On a, avec nos petits-enfants, on a pris ce petit livre de John Piper et on a pris un par jour et on a discuté sur cela. Je crois que c'était édifiant. c'est juste 10 pages, hein. Il n'y a que quelques petits mots sur chaque page, sur chaque point. Par contre, le livre Don't Waste Your Life est un plus grand livre que j'ai lu aussi, c'est avec beaucoup d'édification.